TechNote, le forum technologie et notariat des notaires du Grand Paris. Jeudi 17 juin 2021, en direct du pavillon Cambon-Capucine sur Radio Imo.
Nous sommes toujours à TechNote 2021, le forum technologique et notariat des notaires du Grand Paris, un événement en partenariat avec Radio Imo depuis le pavillon Cambon-Capucine à Paris. On se retrouve physiquement et c'est vrai que c'est très agréable et on est avec vous jusqu'à la fin de cette journée pour vous faire découvrir le métier de notaire, évidemment, de plus en plus digitalisé. Et puis aussi les partenaires qui apportent des solutions technologiques, digitales, data, au notaire. Et là, nous sommes avec un partenaire un peu particulier, colonel Éric Fraissinet. Bonjour.
Bonjour. Alors, général.
Général, pardon, excusez-moi. Garde à vous. Bon. Non, on est très heureux de vous recevoir, bien évidemment, chef du pôle national de lutte contre la cybercriminalité à la gendarmerie nationale. Tout d'abord, vous êtes heureux, j'imagine, de vous aussi, de retrouver du monde.
Oui, tout à fait, oui.
Ça fait du bien, hein. Bon, à quoi ressemble, parce que cette cybercriminalité, elle est quand même très présente et beaucoup de professionnels qui sont venus à ce micro l'ont dit depuis ce matin, à quoi ressemble votre quotidien de super gendarme chassant les cybercriminels ?
Alors, je peux vous parler de mon quotidien qui est de piloter le dispositif au niveau national avec une petite équipe, mais en fait, peut-être le quotidien des gendarmes sur le terrain
est
intéressant.
Oui.
Hein.
Oui, oui.
Donc on a des gendarmes dans chaque brigade qui sont nos correspondants locaux en technologie numérique et qui accueillent les victimes, qui réalisent les premiers actes techniques sur les supports informatiques et en particulier sur les téléphones mobiles dans les enquêtes judiciaires. Et puis au niveau départemental, des spécialistes par exemple de l'analyse de disques durs, des spécialistes de la prévention qui vont au contact des entreprises. Et puis au niveau régional, au niveau national, des enquêteurs plus particulièrement chargés des enquêtes les plus complexes, les rançongiciels que vous avez peut-être évoqués
plusieurs fois
au cours de la journée, dont on peut parler effectivement. Et puis donc des équipes au niveau central, par exemple le Centre de lutte contre les criminalités numériques, qui coordonne les enquêteurs spécialisés, et puis des spécialistes de la preuve numérique pour extraire les données dans les mêmes supports informatiques, mais lorsqu'il y a des difficultés techniques, lorsqu'un disque dur ne fonctionne plus, un téléphone mobile est difficile à accéder parce qu'il a été protégé par un mot de passe, par exemple. C'est des spécialistes de ce niveau-là qui vont intervenir.
Et vous pilotez un peu tout ça, c'est ça ?
Donc c'est une petite équipe qui pilote le dispositif et au total, c'est plus de 6000 gendarmes dans le dispositif. Donc 300 enquêteurs spécialisés et environ 5500 gendarmes en proximité sur le terrain dans les brigades de gendarmerie.
Oui.
Et puis environ 250 experts au niveau central.
J'imagine qu'il a fallu former quand même les gendarmes, parce qu'au départ, c'est pas naturel quoi, ce sujet de la cybercriminalité.
Alors, il y a plusieurs types de formations pour ces différents acteurs, et puis pour les plus experts, ils vont faire des formations dans des écoles d'ingénieurs et se spécialiser.
Oui.
Mais pour les gendarmes du quotidien, c'est une formation qui est réalisée par les enquêteurs spécialisés sur le terrain qui vont partager la bonne parole avec leurs correspondants locaux qui en réalité vont être leur relais dans les brigades de gendarmerie. Les enquêteurs spécialisés suivent une formation d'un an avec l'université de technologie de Troyes. Et puis à cela, on rajoute des formations spécialisées, par exemple à l'enquête sous pseudonyme pour aller découvrir, détecter, identifier les acteurs malveillants sur Internet, par exemple en matière d'atteinte aux mineurs, mais aussi en matière de trafic de stupéfiants sur Internet. Des formations en matière de crypto-actifs, les crypto-monnaies,
oui.
Pour pouvoir mener des investigations, notamment lorsqu'elles sont utilisées pour blanchir beaucoup d'infractions criminelles en réalité. Et ce blanchiment de crypto-monnaies est assez technique parce qu'il utilise toutes sortes de techniques de camouflage des transactions par toutes sortes d'intermédiaires et il faut que les enquêteurs soient spécialement formés à ça. Et il y a d'autres formations spécialisées qu'on développe sur d'autres sujets.
Alors, mon général, pour être clair, est-ce qu'aujourd'hui, cette cybercriminalité est en forte progression ? Est-ce qu'elle est en progression finalement permanente ?
Permanente, c'est le mot. Sa première caractéristique, c'est qu'elle concerne tout le monde. les particuliers, les entreprises, les administrations, on a vu les hôpitaux récemment, tout le monde est concerné. Tout le monde n'est pas forcément ciblé individuellement parce qu'il y a une délinquance de masse hein, derrière avec des ciblages par des campagnes de courrier électronique par exemple ou la découverte au hasard des serveurs web, hein, des commerçants, des notaires sur Internet qui peuvent avoir des vulnérabilités qui peuvent être découvertes par les délinquants. Et la hausse, elle est constante depuis de nombreuses années. Nous, on constate une hausse de, par exemple, de 11% des atteintes au système d'information, donc les infractions qui ciblent plus spécifiquement les systèmes informatiques, les sites web, les comptes de messagerie et ces logiciels malveillants qu'on évoquait tout à l'heure. Donc 11% au premier trimestre par rapport à l'année précédente. C'est à peu près la tendance qu'on observe depuis 3-4 ans, 11% de progression.
Est-ce qu'il y a lieu justement, enfin je me mets à la place, là on est avec les professionnels du notariat, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet? C'est-à-dire, bon, ça progresse et c'est pas fini, quoi, donc...
Alors, il y a deux choses qui progressent. On voit effectivement le nombre d'équipes, par exemple, de malfaiteurs qui sont derrière ces activités malveillantes augmenter dans des proportions plus raisonnables. Hein. On a en gros une soixantaine d'équipes, par exemple, derrière des rançongiciels. Derrière, il y a des milliers d'acteurs qui contribuent à ces activités-là.
C'est du grand banditisme, tout ça, quand même.
Oui, mais souvent sans armes de poing, hein, plutôt avec des armes numériques.
Oui.
Le danger est ailleurs. Le danger, il est pour l'économie, pour nos données, etc.
Voilà. En tout cas, non, mais c'est vrai que, en tout cas, la question qu'on se pose, c'est de se dire quand on est citoyen et que un certain nombre de données doivent comme ça circuler entre nous, là entre les notaires et nous, par exemple, etc. L'important, c'est que toutes ces données soient sécurisées. Et c'est ça qui aujourd'hui continue de poser question, même s'il y a des entreprises, des start-up qui travaillent hein, sur le sujet. On en a eu à ce micro.
Alors, il faut sécuriser. Tout à l'heure, sur la table ronde, on parlera de certains moyens concrets hein, de se protéger. Par exemple ne pas se contenter du mot de passe, mais quand l'option est disponible, activer les dispositifs de double facteur d'authentification. Mm-hmm. Hein, c'est les codes qui s'affichent sur le téléphone mobile et qui permettent, en plus du mot de passe...
L'a avec sa banque, ça, par exemple.
Exactement,
hein.
c'est la même chose. Et donc, quand cette option est disponible... Et dans de plus en plus de systèmes de gestion de sites web, hein, qui est un problème qu'a toute profession libérale, il y a des options qui permettent d'activer ce type de protection. C'est des options gratuites. Hein. Vous parliez de prestataires. Ce qui est important d'être accompagné, c'est sur la façon, par exemple, dont on va gérer ses sauvegardes, dont on va veiller à la sécurité de son accès à Internet. Jeter un coup d'œil de temps en temps à qui se connecte, un éditeur antivirus, hein, une solution antivirus pour se protéger sur les postes de travail. Et il ne faut pas être passif face à ça, c'est-à-dire de temps en temps, pour un professionnel, avoir quelqu'un qui regarde les traces régulièrement, c'est important de le mettre en œuvre. Le deuxième sujet, c'est d'être vigilant. Parce que les solutions techniques ne couvrent pas toutes les problématiques et donc être au courant des risques, voire les anticiper hein, quand on va lancer un nouveau service. Alors je suppose que tous les notaires ont des sites web aujourd'hui, mais si un notaire lance un site web ou un nouveau site web, il faut qu'il pense que les délinquants vont forcément chercher à en détourner l'usage, par exemple pour détourner les données personnelles de ses clients et donc s'informer, être curieux de ce qui se passe autour de soi, échanger avec les collègues, échanger avec les entreprises. Et puis il y a un sujet qui me semble important pour les notaires qui sont un métier de conseil, c'est aussi de conseiller leurs clients qui ont des documents qui sont importants pour eux.
Hein,
si le notaire peut leur apprendre à réaliser des copies numériques de leurs documents pour être sûr de toujours les conserver, ou leur offrir ce service,
c'est vrai qu'on
n'y
pense pas. Hein.
Oui.
Bah oui.
Donc c'est important que tout le monde joue ce rôle de relais dans la collectivité.
Général Frayssinet, quand je vous écoute, en tout cas, je comprends une chose, c'est qu'il n'y a pas derrière la cybercriminalité, il n'y a pas un profil pour la cybercriminalité. C'est un peu comme la criminalité au global. Il y a plein de profils différents qui se cachent derrière.
Alors il y a plein de profils différents, il y a plein d'acteurs différents, mais il y a une dimension géographique qui est assez intéressante.
Ah bon ? C'est-à-dire ?
L'escroquerie sur Internet classique, hein, celle qu'on connaît sur, via les petites annonces, sur les sites de rencontres, etc. Pour les Français, on est beaucoup ciblés par des délinquants qui sont en Afrique de l'Ouest et qui se sont organisés, qui forment des équipes pour réaliser ces escroqueries. En matière de virus informatiques, en particulier de rançongiciels, chiffrant, c'est beaucoup à l'est de l'Europe, Russie, Ukraine, parfois Géorgie, un petit peu en Roumanie, etc., qu'on retrouve les délinquants, en tout cas leur pays d'origine. Ils peuvent s'être implantés ailleurs, notamment on va les retrouver au soleil.
Planqués certains... au soleil.
Exactement. Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a toujours une dimension géographique qui est intéressante. Le profil... La formation des personnes qui mettent ça en œuvre est assez variée. Il y en a qui ont fait des études d'informatique, des études scientifiques. D'autres ont appris sur le tas avec les autres parce qu'ils ils sont agiles, ils sont débrouillards. Et malheureusement, c'est assez simple de rentrer dans cet univers-là. Il y a des façons, des espaces où ils peuvent se rencontrer, discuter et apprendre les uns des autres, comme tout un chacun, mais aussi dans le monde criminel.
Alors, mon général, parlons des notaires, une fois de plus, plus spécifiquement, qui sont, pour un certain nombre, attaqués régulièrement, dont les données sont volées. Il y a des détournements d'argent qui s'opèrent parfois, qui sont assez impressionnants. Enfin, il y a des études, en tout cas, qui souffrent beaucoup de ça. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples en tête à nous donner pour qu'on comprenne bien ce qui leur arrive ?
Alors, une étude de notaire, c'est une petite entreprise. Donc, elle est ciblée par les fraudes dites au président, mais qui visent à détourner de l'argent en se faisant passer pour un fournisseur, pour une personne avec qui on souhaite réaliser des transactions. On a réalisé des transactions. Et l'étude va être contactée, pas directement, hein, ils ne vont pas contacter le notaire, le patron de l'étude. Mais un de ces personnels administratifs et se faire passer pour le notaire. Ils vont s'être renseignés si le notaire est à l'étranger, en déplacement en province, etc.
Donc on observe la victime, quoi, quelque part.
Exactement, hein. Oui, à partir des infos qu'on publie sur les réseaux sociaux, par exemple, ou simplement en appelant, en se renseignant sur... l'ingénierie sociale fonctionne assez bien. Et pendant cette absence, pendant ce moment où les personnels de l'étude sont leur patron, ils vont le contacter et se faire passer pour eux, pour le patron. Se faire passer pour un autre responsable au sein de l'organisation et demander par exemple à changer un RIB dans une transaction, à réaliser une transaction d'urgence. Et ce qui est important comme caractéristique de ces actions, c'est la mise sous pression de la personne. C'est-à-dire qu'on lui dit que c'est secret, on lui dit que c'est urgent. On prend un ton combinatoire et donc les escrocs connaissent tous les ressorts en réalité pour coincer la victime et ils ont toujours une réponse à toutes les questions qu'elle peut poser parce qu'ils se sont documentés sur l'entreprise, ici l'étude de notaire. Le deuxième type de fait dont on peut être victime dans ce contexte-là, c'est le détournement des comptes même de réseaux sociaux ou de messagerie. Si vous utilisez, ça va être de plus en plus le cas, des systèmes de messagerie en ligne. Mais il me semble que les notaires utilisent un peu tous les mêmes messageries.
Apparemment, oui. Oui. Oui.
Si vous utilisez certaines messageries mal protégées, comme on l'évoquait tout à l'heure, en termes de double facteur d'authentification, le compte peut être détourné. Et là, c'est la porte ouverte à des contacts avec les clients. Mais ça peut être fait aussi par les réseaux sociaux et puis ça peut être l'usurpation de l'identité du notaire, un faux compte de réseau social ou une fausse adresse. Là, c'est pas le notaire qui est victime, ça va être son image qui va être exploitée pour réaliser des escroqueries. Et la troisième typologie, c'est les logiciels malveillants et notamment actuellement les rançongiciels chiffrants, hein, qui rendent inaccessibles les données sur les serveurs, sur les ordinateurs de l'organisation, donc ici de l'étude, et les délinquants réclament une rançon payable en bitcoin. Et si on n'y est pas préparé, c'est-à-dire si on n'a pas des sauvegardes, si on n'est pas capable de rétablir le fonctionnement de son système d'information, la pression va être assez forte parce que l'étude, elle doit tourner. En plus, on est dans une situation de crise.
Et dans certaines études, ça se chiffre vraiment à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. C'est arrivé déjà.
Des pertes de clients, de chiffre d'affaires dans ce contexte-là. La rançon qui est payée, ce qu'on ne conseille pas, hein, puisque très souvent, ça ne va pas résoudre le problème. Et puis, les frais techniques, hein, derrière, il va falloir rétablir les systèmes informatiques. Donc, rapidement, oui, plusieurs centaines de milliers d'euros pour ce type d'organisation.
Vous trouvez que les notaires sont assez vigilants aujourd'hui, assez informés sur ce sujet ou pas ?
Alors, ce sont des professionnels qui sont vigilants par rapport à toutes les questions de conformité, de respect de la législation et donc aussi de respect de certaines règles. Et effectivement, en matière d'usage du courrier électronique, par exemple, je suis sûr qu'ils sont très attentifs. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'ils ne sont pas le seul acteur dans la transaction. Ils ont leurs clients avec lesquels ils travaillent. Ils travaillent aussi avec des administrations, etc. Ils sont dans un environnement. Et toutes ces interfaces, ça peut être source de pièges dans lesquels les délinquants vont venir s'insérer. Donc il faut être vigilant en permanence, même si on croit être informé.
Et ben voilà, ça sera le conseil de la fin de cette interview avec vous, Général Frayssinet. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir sur Radio Immo, ici à TechNote 2021. Je rappelle que vous êtes chef du pôle national de lutte contre la cybercriminalité à la gendarmerie nationale. Merci à vous, à très bientôt.
Merci beaucoup.
TechNote, le forum technologie et notariat des notaires du Grand Paris. Jeudi 17 juin 2021, en direct du pavillon Cambon-Capucine sur Radio Immo.